Nous voici à cette troisième rencontre du catéchisme où nous allons parler aujourd'hui dans un premier temps du mystère de Dieu en lui-même, de ce Dieu éternel tel qu'il est de toute éternité et comme nous parlons nous dans l'économie de la rédemption, tel qu'il est en lui-même avant même qu'il n'y ait le commencement. Puis dans un second temps, nous parlerons, on l'a évoqué brièvement la semaine dernière, de l'adoption filiale, ce grand dessein éternel que Dieu a pour sa création, faire de nous des fils. Le mystère de Dieu est celui de l'éternité. Et lorsque nous devons penser au mystère du Dieu trinitaire, eh bien voilà que nous sommes renvoyés immédiatement à notre limite de créature. Parce que Dieu est en dehors de l'espace, or chaque fois que nous pensons quelque chose, nous le pensons forcément dans un espace, et chaque fois également que nous pensons quelque chose, nous le pensons également dans le temps, il y a une durée. Je donne une illustration, c'est celui de nos rêves. Les rêves dont nous nous souvenons parfois nous étonnent de ce que l'espace et le temps sont très étranges dans un rêve. On peut rêver en étant dans un endroit et immédiatement ensuite se trouver dans un autre. Il n'y a plus la même dimension du temps. Bien, vous voyez que là, on touche dans les limites. Nous devons penser Dieu. Et chaque fois que nous allons penser Dieu, nous allons le penser dans un espace et dans le temps. On dit qu'il y a le temps du commencement. Ben, du coup, on va imaginer un espace dans lequel se tient Dieu et voilà qu'il y a quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Le mystère de Dieu, c'est d'abord le mystère de cette éternelle présence. Dieu n'a ni commencement ni fin. En cela, nous dit-il, il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le commencement et la fin de toutes choses, mais il est au-dessus de toutes ces choses. Comment pouvons-nous connaître Dieu? Eh bien, nous ne connaissons pas Dieu par l'expérience, nous connaissons Dieu parce qu'il s'est révélé à nous qui sommes le peuple chrétien, avant cela au peuple de la première alliance. Dieu veut se communiquer, Dieu veut se faire connaître. De telle sorte que si, sensiblement ici-bas sur la terre, nous pouvons par la raison penser qu'il y a Dieu, qu'il y a une cause première à tout cela, que tout ce que nous sommes et que tout ce qui nous entoure n'est pas le fruit du hasard, eh bien, le fait qu'il y ait trois personnes, la Trinité, c'est un objet de révélation. Mais nous allons voir qu'il y a dans les Saintes Écritures un certain nombre de révélations qui nous permettent déjà, dans l'Ancienne Alliance, d'entendre qu'il y a et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Alors pour nous approcher de ce mystère, parce que ça reste un profond mystère, il nous faut partir de Dieu le Père. Dieu, Saint Jean le résume admirablement dans son épître en trois mots, Dieu est amour. Et je vous avais donné cette petite définition de Saint Thomas d'Aquin, il est dans la nature de l'amour de se donner. Alors si nous partons de Dieu le Père est la source de tout l'amour, c'est la source de l'amour et cet amour il veut se donner. Alors je voudrais que l'on se mette, pour approfondir cela, à l'école de Saint Bonaventure. Saint Bonaventure est un théologien du XIIe siècle, XIIe, XIIIe siècle. Saint Bonaventure, il est à Saint François d'Assise ce que Saint Thomas d'Aquin est à Saint Dominique, c'est-à-dire c'est le docteur de l'ordre, celui qui va conceptualiser les charismes des fondateurs. Alors le grand charisme de Saint François d'Assise, ça va être d'entrer dans la foi chrétienne avec la pauvreté. De telle sorte que Saint Bonaventure, quand il pense en franciscain le mystère de Dieu, il va nous dire bien Dieu, c'est le pauvre par excellence. Et vous allez voir qu'il est bien plus facile de penser que Dieu est pauvre qu'avec toute cette richesse de tout ce qu'est Dieu. Alors pourquoi Dieu est pauvre, nous dit Saint Bonaventure? Dieu est pauvre justement parce qu'il veut se donner. Et que du coup, il nous aime tellement qu'il veut se donner. Alors du coup, Dieu le Père est cette source de l'amour qui veut se donner, qui veut se communiquer. Mais Dieu ne peut pas, on est obligé, voyez-vous, de parler et de dire des choses pas très belles vis-à-vis du bon Dieu. Dieu peut pas, mais bien sûr qu'il peut tout, mais notre langage est très limité pour entrer dans ce mystère. Hein. Donc Dieu veut se donner, mais il ne peut se donner qu'à un être aussi éternel que lui. Il est cette puissance même de l'amour, mais il ne peut se donner qu'à quelqu'un, quelque chose qui peut recevoir cette démesure de l'amour. C'est pourquoi dans le Credo, on nous dit que le Père engendre le Fils. Et dans le Credo, on précise, attention, il est engendré, il n'est pas créé. Engendré veut dire qu'il vient du Père. Hein? Donc du coup, Dieu le Père engendre Dieu le Fils, mais je rappelle déjà qu'il n'y a pas de notion de temps, ce qui veut dire qu'il ne faut pas imaginer un instant où il y a Dieu le Père sans qu'il n'y ait Dieu le Fils. C'est là où on voit les limites de notre pensée vis-à-vis du mystère de Dieu. Donc le Père engendre le Fils, mais ce qui nous permet de comprendre cette réalité, c'est qu'on ne peut appeler Dieu le Père Père que parce qu'il y a le Fils. Hein? Un Père n'est Père que quand il y a le Fils, et le Fils n'est Fils que parce qu'il a un Père. Alors, Dieu le Père, qui est ce pauvre, nous dit Saint Bonaventure, du coup il veut se donner, et il va tout donner, il va tout donner à Dieu le Fils. Donc vous voyez, c'est en cela que Dieu est pauvre, nous dit Saint Bonaventure, parce que tout ce qu'il est, eh bien il le donne au Fils. Et le Fils, que fait-il? Il ne garde pas jalousement tout ce qu'il a reçu du Père, au contraire, il va tout rendre dans l'action de grâce à Dieu le Père. Vous voyez, la Trinité, ce n'est pas quelque chose où on pourrait dire « Oh, ils doivent s'ennuyer » ou « Ils sont toujours entre eux ». Non, il y a vraiment un grand mouvement, le mouvement même de l'amour. Dieu le Père aime le Fils, Dieu le Fils aime le Père. Et ils sont unis, justement, profondément dans cet amour. Ce n'est pas un amour de fusion, au sens où ce n'est pas une fois que le Père se sera donné au Fils, le Père n'existe plus et tout est donné au Fils. Non. Dieu le Père, il va tout donner sauf son identité de Père. Et Dieu le Fils va tout recevoir et tout rendre au Père, mais il reste profondément le Fils. Donc là, on a déjà cette image qui unit et le Père et le Fils. Et le Seigneur Jésus nous dit, le Père et moi, nous sommes un. Donc vous voyez, il y a vraiment une grande intimité, une grande union entre le Père et le Fils. Et vous allez me dire, c'est bien beau, mais où est donc l'Esprit Saint? Eh bien, l'Esprit Saint, c'est l'amour qui unit et le Père et le Fils. Donc Dieu le Père, il aime le Fils, donc il y a cet amour qui du Père va au Fils, c'est l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint c'est également l'amour qui du Fils va au Père. Il y a cette grande communion de l'amour au sein de la Trinité Sainte. Est-ce que le Père c'est le Fils? Eh bien non. Est-ce que le Fils c'est le Père? Non. Est-ce que l'Esprit Saint c'est... Non. Les trois sont Dieu, ils partagent la même nature divine. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Il n'y en a pas un des trois qui est plus Dieu que l'autre. Donc ça, tout ce que nous savons et tout ce que je dis là, nous le savons par la révélation que notre Seigneur Jésus le Christ nous a donnée du Père. Et nous savons que dans l'Évangile, il parle souvent de Dieu le Père, il parle souvent de l'Esprit Saint, je vais vous envoyer l'Esprit Saint, le Paraclet, il va vous faire souvenir de tout ce que je vous ai enseigné, il va vous conduire vers la vérité tout entière, il va nous dire le Père et moi nous sommes un, qui m'a vu a vu le Père. Donc vous voyez, il y a vraiment dans l'évangile particulièrement de Saint Jean, tout un tas de grands développements que Jésus fait sur cette union qui va l'unir à Dieu le Père. Donc il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et ils partagent la même nature divine. Qui est éternel? Le Père, le Fils ou l'Esprit Saint? Les trois sont pleinement éternels. On le dit, voyez-vous, dans le Credo, on le dira du Saint-Esprit, on dira du Saint-Esprit qu'il est Dieu et qu'il reçoit la même adoration et la même gloire. Sous-entendu, c'est pas la personne divine qui arrive un peu en troisième, dont on n'aurait pas besoin. Malgré cela, c'est toujours des paroles délicates, il y a quand même un ordre dans la Trinité. Il y a bien sûr Dieu le Père, dont on nous dit qu'il va engendrer le Fils. Et qu'est-ce qu'on dit du Credo du Saint-Esprit? On dit qu'il procède et du Père et du Fils. Donc le Père engendre le Fils et l'Esprit Saint, il procède des deux, puisque je vous ai dit, il est cet amour qui unit le Père au Fils et le Fils au Père. Donc ça... Alors ça paraît très abstrait, j'entends, hein, mais voilà un peu ce grand mystère de ce Dieu qui veut se communiquer, qui veut se donner à Dieu le Fils. La création ne va pas venir comme quelque chose qui répondrait à un besoin de la Trinité Sainte, se dire « Oh, ben écoutez, on est un peu entre nous, on va du coup créer comme des spectateurs, ou on va créer quelque chose parce qu'ils s'ennuieraient, parce qu'ils auraient besoin. » Non, cela procède de l'amour. Il est dans la nature de l'amour de se donner. Et voilà que Dieu le Père qui se donne au Fils, le Fils qui se donne et se reçoit du Père, eh bien voilà, ils vont se donner dans le mystère de la création. Alors attention, ils ne sont pas la création au sens où Dieu n'est pas la nature, mais ils vont créer quelque chose d'extérieur à eux. Ils vont créer l'ensemble de la création, ils vont créer les anges, ils vont créer l'homme et la femme à leur image et à leur ressemblance. Pourquoi faire ? C'est là où on va en venir après au dessein divin, c'est qu'ils veulent faire de nous des fils. Je reviens pour l'instant sur la création. Lorsque l'on lit le récit de la Genèse, il y a un mouvement qui revient. On nous dit, il y a Dieu qui dit, il y a Dieu qui voit, et cela est très bon. Ça revient dans tout le récit. De telle sorte que l'on peut dire, Dieu le Père a comme l'idée de la création, le projet, pourrions-nous dire. Et celui qui va venir dire la parole créatrice, c'est Dieu le Fils, celui que l'on appellera lors de son incarnation Jésus le Christ. Il est la parole du commencement, il est la parole créatrice. Donc vous voyez, il ne faut pas simplement imaginer Jésus le Christ, qui naît de la Vierge Marie aux alentours de l'an zéro, comme s'il n'existait pas avant. Il est là de toute éternité. Il le dit dans l'Évangile de façon déconcertante, mais avant Abraham, moi j'étais. Et il y a une réaction d'un des contemporains qui assiste à une parole telle de Jésus, mais enfin il a 40 ans, comment peut-il avoir connu Abraham ? Et à d'autres endroits, il parlera de la grandeur de Moïse et dira, mais vous avez ici bien plus que Moïse. Hein ? Donc du coup, Dieu le Fils, il est la parole créatrice. Et voyez déjà, je vous ai dit, hein, il y a cette union de l'amour entre le Père et le Fils, et le Fils, il est obéissant au Père. Et obéissant au Père parce qu'il aime profondément le Père et il veut réaliser ce que le Père a pensé. Et ensuite, donc on a cette idée hein, de la création, le Verbe qui est à l'œuvre dans la création, c'est lui qui a créé, c'est lui la parole créatrice, la parole qui ordonne. Et ensuite, on nous dit, il y a toujours Dieu qui, une fois qu'il a vu, et il voit que cela est bon. Et au moment de la création de l'homme et de la femme, Dieu vit que cela était très bon. Eh bien, celui qui se réjouit de voir une telle unité, une telle harmonie, une telle communion d'amour entre ce que le Père a pensé, ce que le Fils a réalisé, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est dans l'action de grâce, hein, c'est cet amour d'unité, de communion qui unit et le Père et le Fils. Donc, voyez, la création, elle est profondément marquée par cet amour de Dieu. Il y a un commencement pour la création, il y a le grand mystère du temps. N'oublions jamais que la Trinité Sainte est éternelle, elle est au-dessus du temps. Et voilà qu'au moment de l'incarnation, Dieu le Fils, lui, va entrer dans le temps pour offrir sa vie et venir nous sauver en raison du péché. Nous en avons parlé la semaine dernière. Avant d'arriver à cette adoption filiale, je voudrais également revenir sur les différentes manifestations, signes que nous avons de la Sainte Trinité dans l'Ancien Testament. Déjà, je viens de vous le dire, le récit de création est quand même structuré. Hein, on peut y reconnaître avec les pères de l'Église le Père, le Fils, la parole créatrice, l'Esprit Saint qui se réjouit. Et puis, il y a un pluriel de majesté. Au moment où il va falloir faire l'homme et la femme, on ne nous dit pas qu'on va faire, on dit « faisons ». C'est bien qu'il y a un pluriel. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et bien ce faisons, c'est bien aussi l'idée que Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont à l'œuvre dans la création. Hein, parfois on pourrait penser que la création c'est Dieu le Père, puis il aurait le temps de Dieu le Fils qui n'arriverait qu'à l'incarnation. Non. Ils ne sont jamais séparés. Ils vivent en profonde communion. Donc du coup, et c'est là où on va comprendre aussi un peu plus le mystère de Dieu le Fils, que nous approfondirons, parce que c'est le mystère du Christ. Hein ? On peut comprendre aussi pourquoi le Seigneur Jésus peut accomplir un certain nombre de miracles. Non, il n'est pas comme un prophète qui va être inspiré par Dieu, ou Dieu qui voudrait passer, comme il veut passer par le prophète Élie, pour accomplir telle guérison, tel miracle. Là, le Seigneur Jésus, il peut agir sans même prier. Par moment, le Seigneur Jésus, pour accomplir un miracle, il va prier. Mais ne nous y trompons pas, cet homme d'Aquin nous dit, s'il prie, c'est pour nous enseigner à nous la prière, à toujours invoquer Dieu avant d'agir. Mais le Fils, par moment, il dit simplement une parole et il est guéri aussitôt. « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Il n'a pas fait de prière particulière, il agit avec autorité. Et l'évangile selon saint Marc que nous méditons cette année, eh bien, il y a toujours cette grande mise en scène sur la grande question, mais d'où lui vient une telle autorité? Ben, il est le Dieu créateur. Quand il y a la tempête apaisée, que le Seigneur lui dort sur son coussin derrière la barque, tranquillement, qu'on vient le réveiller, et lui aussitôt, il commande à la mer se calme, le vent se calme, et tout le monde de se dire, mais qui est-il pour que même la mer et le vent lui obéissent? C'est le Dieu créateur, il est la parole du commencement. Quand le Seigneur touche un aveugle par son humanité, ben voilà que l'humanité du Seigneur, c'est l'instrument de sa divinité. Il vient pour manifester déjà que le royaume des dieux est parmi nous et anticiper cette nouvelle création. Donc on voit que déjà dans ce mystère de la création, eh bien, la Trinité même est à l'œuvre. La Trinité dans sa structure du récit, la Trinité faisant l'homme à notre image, à notre ressemblance, et puis il va y avoir... Je pense à ça maintenant. Quand Abraham va rendre l'hospitalité à Dieu, ben, c'est trois anges, comme trois anges qui vont se manifester à lui sous le chêne de Mambré. Alors Abraham, dès qu'il a cette apparition divine, c'est le monde oriental, il faut rendre l'hospitalité. C'est ainsi que fonctionne la culture. Donc du coup, il s'en va pour préparer tout ce qu'il faut pour les accueillir. Mais on voit bien que sous le chêne de Mambré, c'est pas simplement trois anges qu'il a rencontrés, mais c'est bien la divinité. On va parler d'anges dans la tradition d'Israël par respect vis-à-vis de Dieu. Alors peut-être que nous, on ne comprend pas toujours ça parce que nous, on nomme Dieu... Parfois, moi, ce qui me fait bouillir intérieurement, c'est quand on l'appelle Jésus comme ça, comme si c'était quelqu'un parmi tant d'autres, ou alors maintenant c'est la mode, Marie tout court. Alors là, Marie, Maman Marie même. Donc du coup, il faut quand même agir avec Dieu avec quand même un profond respect. C'est pas parce qu'ils nous permettent d'entrer dans leur intimité que ce sont les grands copains et que c'est la fête tous les jours. Donc du coup, il y a... un grand respect d'Israël, vous savez que dans les commandements, tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur en vain. Et donc du coup, sans doute que si on a parlé d'ange, c'est pour manifester justement la distance et le respect vis-à-vis de ce Dieu qui vient à la rencontre d'Abraham. Manifesté comme trois personnages. Ensuite, dans le Nouveau Testament, Jésus va avoir un enseignement explicite sur le mystère de Dieu et la Trinité. Le Seigneur Jésus nous parle toujours du Père, de son Père. De telle sorte que ça revenait tellement aux oreilles des apôtres, parce que les évangiles ne nous rapportent pas à tout l'enseignement de Jésus, ce n'était pas les sténos qui prenaient, ou les scribes, comme on pourrait dire, qui prenaient par écrit tout ce qui sortait des lèvres du Seigneur Jésus. Mais il y a un récit dans lequel les apôtres finissent par dire au Seigneur Jésus, « Écoutez Seigneur, je crois que c'est Thomas qui pose la question, Seigneur, montrez-nous le Père, cela nous suffit. » C'est bien qu'ils comprennent que quand Jésus parle de son Père, il y a un tel amour, il y a un tel désir de voir le Père, montre-nous le Père. Et Jésus de répondre, mais qui m'a vu a vu le Père. L'Épître aux Hébreux nous commencera en nous parlant du mystère de Dieu le Fils, en nous disant qu'il est le reflet du Père, le parfait reflet du Père. Alors c'est un mot qui va revenir, Dieu soit béni, il n'y aura plus d'hérésie dans le credo. On en a quand même supporté pendant des années. On ne va pas dire que le Fils est de même nature que le Père, ce que nous disons aujourd'hui. Il est consubstantiel au Père. J'explique un peu la nuance. De même nature qu'eux pourrait laisser entendre que chacun a sa propre nature. Comme nous ici, rassemblés, il y a la nature humaine. Mais elle est quand même individuée en chacun d'entre nous, mais nous l'avons aussi en commun, cette nature humaine. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle est comme ça individuée en nous? Notre rapport au corps et à la matière. Nous sommes individués. En revanche, voilà que dans le mystère de Dieu, il partage la même nature. Il n'a pas la même nature que le Père. Consubstantiel, comme en latin veut dire avec. Avec le Père, il a la même nature. Avec l'Esprit Saint, ils ont la même nature divine qu'ils se partagent. Hein, la même gloire, la même adoration, le même amour, la même éternité, voilà ce qu'est ce grand mystère de Dieu qui vient et à notre secours et à notre rencontre. Donc non seulement il y a les enseignements du Seigneur Jésus qui nous permettent d'expliciter qu'il y a le Père, qu'il y a l'Esprit Saint, il parle toujours de sa nature divine avec un grand respect et un grand mystère, il ne dit pas « je », il parle, quand c'est comme ça, du Fils de l'homme. C'est une grande image prophétique qui habite l'Ancien Testament. Quand il doit parler de lui dans son rôle à la fin des temps, il va dire « quand le Fils de l'homme viendra ». Pourquoi ? Parce que nous sommes, ne l'oublions pas, on l'a vu la semaine dernière, sous le régime de la foi. Jésus, dans son humanité, de par son incarnation, se présente aux yeux des apôtres comme un homme. Mais voilà qu'ils vont devoir confesser que cet homme, cette humanité, eh bien, elle contient la puissance de la divinité. C'est un grand miracle. Voyez, le miracle, on a toujours l'impression que ce doit être des grandes choses. Et bien là, le miracle, c'est plutôt le sens inverse, c'est que Dieu, sous l'apparence d'un homme, eh bien se tient caché et peut agir en tant que Dieu. Ensuite, il va y avoir des manifestations de la Sainte Trinité dans le Nouveau Testament. Il y a deux grandes manifestations de la Sainte Trinité qui vont être au moment du baptême et au moment de la transfiguration du Seigneur. Au moment du baptême, cela veut dire que Dieu le Père et Dieu l'Esprit Saint, même s'ils sont profondément à l'œuvre, hein, Dieu le Père décide d'envoyer Dieu le Fils, hein, ça va se passer par la Bienheureuse Vierge Marie, mais ça se fait par l'opération du Saint-Esprit. Comment cela va-t-il se faire ? Interroge la Sainte Vierge pleine de foi. Hein, la puissance du Très-Haut vous prendra sous son ombre. Hein, voilà que l'Esprit Saint vient habiter et être toujours au-dessus de la Bienheureuse Vierge Marie. La Vierge, elle est toujours à l'ombre de l'Esprit Saint. Déjà, il y a cette image de l'ombre pour nous parler de l'Esprit Saint. Au moment du baptême, ça veut dire au commencement de la vie publique du Seigneur Jésus, voilà que Dieu le Père va comme enfin se faire entendre. Hein, on va bientôt rentrer dans le temps de l'Avent. Que va-t-il se passer ? Eh bien, on va nous dire, donc il y a l'ange qui apparaît à Marie, donc un envoyé. Ensuite, l'Esprit Saint, c'est très mystérieux. Au moment de la visitation, c'est aussi l'Esprit Saint qui est à l'œuvre, qui permet à Élisabeth de reconnaître que c'est non plus sa cousine qui vient, mais la mère du Seigneur, acte de foi. Également, Jean-Baptiste, dans le ventre, il se met déjà à l'œuvre parce qu'il reconnaît qu'il y a Dieu le Fils qui est à ses côtés. Il est le précurseur, c'est sa mission. Du coup, il a comme envie déjà de sortir du ventre de sa mère pour commencer l'œuvre de salut. Et puis, lorsqu'on va arriver au moment de l'incarnation, les bergers vont venir, bien sûr, à la crèche. Les anges vont venir une fois encore témoigner, gloire à Dieu au plus haut des cieux, qu'il s'agit bien de la présence de Dieu. Mais Dieu le Père n'a toujours rien dit. Et c'est au moment du baptême, c'est-à-dire au commencement de la vie publique, que la Trinité Sainte va être manifestée. Au moment où Jean-Baptiste baptise le Seigneur, où le Seigneur entre dans ses eaux, eh bien voilà, nous dit-on, qu'il y a l'Esprit Saint sous la forme du colombe qui apparaît au-dessus du Seigneur Jésus et que du ciel, une voix se fait entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. » Au baptême, voilà que nous avons la manifestation de la Sainte Trinité. La voix de Dieu le Père, Dieu le Fils dans son incarnation, qui est donc dans le Jourdain en recevant le baptême, et l'Esprit Saint, hein, qui sous la forme de cette colombe, comme plane, au-dessus du Seigneur Jésus, comme déjà hein, au moment de Noé, il y avait l'Esprit hein, qui volait au-dessus de ses eaux. Voilà. Donc du coup, là, on a explicitement l'image de la Sainte Trinité, que l'on va retrouver à un moment charnière, celui où le Seigneur Jésus, après avoir annoncé les tourments de la Passion, eh bien, va amener trois de ses plus proches disciples, de ses plus proches apôtres, l'apôtre Pierre, Jacques et Jean, sur la montagne où il va être transfiguré devant eux. Alors retenons de la transfiguration non pas l'apparition d'Élie de Moïse, on verra tout ça en son temps, ça a un sens aussi, mais voilà que là encore une fois, Dieu le Père va se manifester par cette voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », alors que le Seigneur, là pour le coup, dévoile quelque chose de sa divinité, puisque ses vêtements et son visage deviennent brillants et lumineux comme le soleil. Donc du coup, là, il est donné à ces trois apôtres d'entrevoir derrière l'humanité du Seigneur la gloire de sa divinité. La voix de Dieu le Père se fait entendre, et on nous dit même qu'ils sont pleins de crainte quand ils entendent une telle voix venir du ciel. Et puis, l'Esprit Saint est là rendu manifeste sous la forme de la nuée. Alors, voyez, l'Esprit Saint et Dieu le Père, puisqu'ils ne sont pas incarnés, ils ne prennent pas un corps, il y a toujours des images. Dieu le Père, c'est toujours la voix, une voix qui se fait entendre. Vous voyez, ce n'est pas incarné, une voix. Enfin, alors, pour nous, la voix est forcément incarnée, parce que c'est un langage articulé, les cordes vocales, tout ce système. Mais là, c'est la voix qui est du ciel. On nous dit, le ciel se déchire, la voix de Dieu le Père se fait entendre. L'Esprit Saint, il y a déjà l'image de la colombe. Il y a l'image de l'ombre du puissant par rapport à l'Annonciation. Il y a là, cette fois-là, l'image de la nuée. Il y aura les langues de feu au moment de la Pentecôte. Il y aura dans les Actes des Apôtres le coup de vent, ce même coup de vent qui fait virevolter le capulet de Bernadette le 11 février 1858. Vous voyez, je vous disais, quand on a parlé des anges, les anges sont de purs esprits, donc du coup, ils n'ont pas de corps, ils peuvent assumer un corps pour leur mission, en cela, ils sont des anges, ils nous sont envoyés, mais sinon, du point de vue de la nature, eh bien, ce sont de purs esprits. Ben là, on le retrouve dans la Trinité Sainte, le Père dans l'image de cette voix, et l'Esprit Saint qui a plusieurs, comme ça, images et manifestations de sa présence bien réelle. Donc voilà un peu comme un premier petit enseignement sur ce grand mystère de la Sainte Trinité. Je voudrais maintenant en venir, puisqu'on a parlé un peu de la création, on a déjà évoqué un peu la rédemption, sur ce projet éternel qui habite le bon Dieu. Il est dans la nature de l'amour de se donner. Alors bien sûr, Dieu le Père se donne à Dieu le Fils. Et ensuite, la question est de se dire comment cet amour va se communiquer dans la création. Alors, dans la création, dans sa variété, dans sa beauté, dans son harmonie. Dans l'harmonie de la création, il faut voir, quand un corps est en bonne santé, comment tout peut bien fonctionner. C'est quand même admirable que de penser à tout cela. Le monde, l'articulation des saisons, les lois de la nature, tout cela est créé par Dieu, y compris ses lois, des mouvements des astres, voilà, tout cela, les lois de la nature sont également créées par Dieu. Et puis, il ne faut pas oublier que la création n'est là que en vue et de l'homme et de la femme créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu a un dessein divin. Je vous ai dit, Dieu le Père, il engendre Dieu le Fils. Et ce grand projet de Dieu, c'est de faire de nous des fils. Il veut... Alors, c'est ce que l'on dit dans la théologie de Saint Paul, il veut nous adopter, il veut faire de nous des fils adoptifs, et nous dit Saint Paul, par Jésus le Christ. Et l'Esprit Saint est appelé, et dans les Saintes Écritures, et dans la liturgie de l'Église, l'Esprit d'adoption. Saint Paul, qui est le grand docteur, on pourrait dire, du Saint-Esprit, nous dit, voilà, l'Esprit Saint, par des cris inexprimables, nous fait appeler Dieu Abba, Père. C'est bien parce que nous sommes appelés à être ses fils. De même, saint Paul dira, « Nul ne peut confesser que Jésus est le Seigneur sans que ça lui ait été révélé par l'Esprit Saint. » Je vous donne deux exemples dans le Nouveau Testament. Enfin, l'apôtre Pierre a une bonne réponse. À la question « Pour vous qui suis-je ?» Alors là, tout content, pour une fois, il ne va pas se faire abrouer. Et pourtant, le Seigneur ne manquera pas de lui rappeler que sa réponse ne vient pas de lui. Pour vous qui suis-je, vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ah ben là, on se dit, ça y est, enfin le brave Saint-Pierre a une bonne réponse. Oh Pierre, tu ne dis pas cela par la chair et le sang, tu dis cela parce que Dieu te l'a révélé. Vous voyez que nul ne peut confesser que Jésus est Seigneur, qu'il est vraiment Dieu, sans que cela ne lui soit révélé par l'Esprit Saint. Je vous parlais d'Élisabeth. Sainte Élisabeth n'avait pas de téléphone, n'avait pas de moyen de communication pour savoir non seulement que sa cousine arrivait dans sa région montagneuse pour l'aider dans sa grossesse, elle n'avait pas encore averti la bienheureuse Vierge Marie qu'elle était enceinte, enfin, du moins on ne pense pas puisque c'est l'ange qui lui apprend, et la Vierge se met en route. Et lorsqu'elle arrive, il y a la salutation. Et Élisabeth, elle ne dit pas « Oh, quelle joie que d'entendre la voix de ma cousine !»« Comment ai-je ce bonheur que vienne jusqu'à moi la mère du Seigneur ?» Et on nous dit, attention, la visitation, c'est d'abord l'action de l'Esprit Saint. Parce que qu'est-ce qui se passe? On nous dit, oh, Élisabeth est remplie de la joie. Eh oui, mais la joie communiquée ainsi, c'est la manifestation de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'esprit de joie, cette joie profonde qui fait que dans les entrailles d'Élisabeth, tout se met à tressaillir de joie. non seulement parce que la Vierge arrive, mais parce que c'est la Vierge enceinte dans laquelle se trouve le Fils de Dieu. C'est la Mère de Dieu qui vient comme au chevet de Sainte Élisabeth. Et la Visitation, je dis souvent, ce grand mystère de la Visitation devrait s'écrire avec un S, parce que c'est d'abord la visite de l'Esprit-Saint en Élisabeth et en Jean-Baptiste. C'est la même visite entre la Vierge. Donc tout cela est habité vraiment par l'Esprit-Saint. Ne croyons pas que la Visitation, c'est simplement la Vierge qui rend visite à Élisabeth. À travers la Sainte Vierge, voilà que le Seigneur rend visite à Jean-Baptiste, mais tout cela n'est prévu et possible que par l'Esprit-Saint qui vient vraiment habiter Sainte Élisabeth. Nul ne peut reconnaître que Jésus est le Seigneur sans que cela ne lui soit inspiré par l'Esprit-Saint. Alors ce grand projet de création, eh bien, on veut faire de nous des fils. C'est-à-dire qu'il y a deux ordres, l'ordre de la chair et l'ordre de la grâce. Alors l'ordre de la chair, on comprend que le Seigneur Jésus est le fils de Marie, au sens où la bienheureuse Vierge Marie est la véritable mère du Seigneur Jésus dans son humanité. Donc du coup, là, il y a l'ordre de la chair, elle va enfanter véritablement le fils. Alors nous, ce n'est pas, on ne doit pas être adopté par Dieu dans l'ordre de la chair. N'oublions pas que Dieu n'a pas de corps. Ce n'est pas un manque. Vous voyez, c'est nous qui en parlons comme quelque chose d'un manque. Ce n'est pas un manque pour Dieu que de ne pas avoir de corps. Mais voilà que du coup, il y a l'ordre de la chair et il va y avoir l'ordre de la grâce. Et nous, on ne doit pas être enfanté dans l'ordre de la chair en tant que fils de Dieu. On doit être enfanté dans l'ordre de la grâce. De telle sorte, dirons-nous, que nous avons à devenir en tant que chrétiens, on doit devenir par la grâce de Dieu ce que le Fils est par nature. Et qu'est-ce qu'il est par nature ? Le Fils de Dieu le Père. Ce grand projet que Dieu a de toute éternité, c'est celui de nous accorder une immense dignité, celle de faire de nous des fils. Par le baptême, nous sommes adoptés, et par le Père, et par le Fils, et par l'Esprit-Saint, nous sommes enfants de Dieu, enfantés dans l'ordre de la grâce, et parce qu'on est ainsi enfantés, non seulement on va pouvoir appeler Dieu notre Père, c'est comme ça que Jésus, quand il dit « Apprenez-nous, Seigneur, à prier », parce qu'ils se disent « Mais enfin, Jean-Baptiste, il a appris à prier à ses apôtres ». On voit toujours, les apôtres voient le Seigneur Jésus à l'écart sous cette haute montagne, aller se mettre en prière. « Seigneur, apprenez-nous à prier. Oh, quand vous priez, dites !» Et les premiers mots sont décisifs, « Notre Père ». Vous voyez qu'on doit rentrer dans cette intimité avec Dieu qui veut faire de nous des fils et qui se révèle à nous comme notre Père. Alors on doit devenir par cette grâce ce que le Fils est par nature, enfant de Dieu. C'est donc ce grand projet. Vous voyez, Dieu il ne fait pas simplement de nous des créatures qui devraient lui être soumises, qui devraient être... Tout cela est vrai aussi, bien sûr qu'on doit être soumis à Dieu, soumis à sa loi, mais il veut faire de nous des fils. Et là, il y a un mot en théologie qui le dit encore plus manifeste. On peut parler bien sûr d'adoption, mais on parle également de divinisation. Ça veut dire que voilà, Dieu il veut faire de nous... Alors, dans les Saintes Écritures, on dit « comme des dieux ». C'était aussi avec ça que le démon se présentait à Ève. « Ah, mais vous allez devenir comme des dieux ». Mais ils le sont déjà, vous voyez. Ce grand désir de Dieu de faire de nous des fils, ça va habiter tout ce grand mystère de Dieu. L'économie originelle, je vous avais dit. Adam et Ève, sous le régime de la foi, eh bien, Dieu les appelle à devenir véritablement ses fils. Ses enfants. Il y a le péché, qu'à cela ne tienne. Le dessein de Dieu ne change pas d'une économie à l'autre. Le péché, avons-nous vu la semaine dernière, ce n'est pas l'échec de Dieu. C'est l'échec de l'homme. Il n'a pas écouté, il a désobéi, il y a la punition. Mais Dieu, lui, dans son amour éternel, continue. Il poursuit jalousement l'homme de son amour. Il veut quand même faire de nous des fils. Alors du coup, le gouvernement invisible du Verbe de Dieu va devoir se rendre visible, manifeste par la loi, par l'alliance, par le choix d'un peuple qui aura ensuite la mission de l'universalité pour l'annoncer à tous les autres peuples. Et le peuple juif ne répondra pas à sa mission d'expansion ainsi du message de révélation, d'où le fait ensuite qu'il y aura l'Église, le nouvel Israël, non plus les 12 tribus d'Israël, mais les 12 apôtres qui iront dans toutes les nations pour parler et manifester cette révélation de Dieu. Dieu nous aime tant qu'il a envoyé son Fils, bien sûr, mais surtout, pourquoi il a envoyé le Fils ? Parce qu'il veut faire de nous ses propres fils. Voyez, non seulement il faut considérer Dieu pour ce qu'il est, hein, Dieu bien au-dessus de nous, et ça je crois que c'est quand même une étape très importante dans les dons de l'Esprit-Saint, c'est ce qu'on appelle le don de crainte. Hein. Le don de crainte, ça ne veut pas simplement dire « je mets mes bras pour me protéger de Dieu », mais ça veut dire « attention, je suis une créature, je dois être à ma place est ajustée lorsque Dieu est au-dessus de moi ». Mais on voit aussi que malgré ce don de crainte, hein, le Seigneur dira aux apôtres au moment de la Passion, aux apôtres, c'est toujours très important de rappeler ça, « je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami ». Vous voyez qu'on doit rentrer hein, petit à petit dans cette amitié de Dieu. Nous avons fêté la Toussaint, hein, la Toussaint et tous ceux qui sont saints, par la grâce bien sûr de Dieu, bien, ils sont considérés comme les amis véritablement de Dieu. J'aime beaucoup, ça m'a toujours fait un coup dans le cœur quand j'entends des choses pareilles, parce que je me dis, je ne sais pas ce que le Sacré-Cœur dirait de moi. Quand le Sacré-Cœur apparaît à Sainte Marguerite Marie, il dit, puisqu'il va envoyer le père de la Colombière, ce jeune jésuite prometteur, envoyé comme aumônier du Carmel de la Visitation et qui deviendra le directeur spirituel de Sainte Marguerite Marie, le Sacré-Cœur lui dit, je vais vous envoyer mon meilleur ami. Ah, dis donc. Et ainsi arrive, il ne le savait peut-être pas comme ça, Claude de la Colombière, Saint Claude de la Colombière. Donc vous voyez qu'il y a vraiment hein, à la fois Dieu le Créateur, il nous crée, oui, de toute éternité et par amour. Il nous donne une dignité, d'abord de créature, parce qu'il aurait pu faire un monde plus parfait, mais il veut que nous perfectionnions sa création, c'est-à-dire il veut que nous coopérions à son œuvre de création, tout comme ensuite avec le péché, il va vouloir qu'on coopère à l'œuvre de salut. Mais quel est ce grand projet ? Il veut faire de nous des fils. Et ça, je ne peux que vous inviter à méditer hein, ce grand mystère de Dieu qui nous aime tellement. Hein, il est dans la nature de l'amour de se donner. Et Dieu veut se donner pour que nous soyons avec lui. Voyez ce que je veux ? Il y a vraiment cette grande union de l'amour. Faire de nous des fils. Nous avons donc à devenir, dans la vie chrétienne, façonnés par les sacrements et la prière, nous avons à devenir, par la grâce, ce que lui, Jésus le Fils, est par nature le Fils du Père.